Le cabinet d'esthétique.
Que puis-je pour vous ? Murmure une voix de femme. L'écran s'illumine quand s'élève la voix. On entre, on tape des chiffres. Local chauffé, atmosphère stérile presque. Le téléphone à côté d'elle ne sonne jamais. Un jouet, un décor de théâtre. Dans la nuit, mon père décroche le combiné, pose des questions. Où est l'argent ? Est-ce que je vais enfin pouvoir dormir ? Qui m'a laissé dehors ? Quand il décroche, le téléphone sonne dans un bureau quelque part au Texas, où une permanence est assurée, soi-disant, mais pas la nuit. Une machine parle en même temps que mon père, sans l'écouter, se contente de parler, le pâle reflet du visage de mon père à l'écran. N'importe quelle carte magnétique permet d'entrer, ceux de la rue le savent, ou la prennent vite. Dans ce local, il ne fait jamais nuit. La lumière grésille, blanche, aveuglante. Debout au guichet, mon père remplit des formulaires de dépôt. 500 sur l'épargne, 25 000 sur le compte chèque, tout en liquide. L'église dans une enveloppe qu'il jette à la poubelle. Si on passe en voiture, on croit avoir une vitrine, un diorama. Homme de la fin du XXe siècle simulant une opération bancaire offerte par le musée des sans-abri. Les gens qui entrent, qui ont de l'argent à retirer, ne lèvent pas les yeux sur lui, ne le remarquent même pas. Propre, bien mis. Ses longs cheveux grisonnants tirés en arrière, semblables à eux exactement. Il passe à la banque, après minuit, avant d'aller en boîte, à un souper, rejoindre une dame qui attend dans la voiture. Cette voiture, garée au bord du trottoir, moteur en marche. Et qui les jambes sous le chauffage écoute la radio. A little honey in my pot, ou baby, it's cold outside. Skid est pelotonné sous le guichet, inanimé ou à demi-conscient. Difficile à dire, son ghetto blaster à plein volume serré dans ses bras comme un enfant qui hurle. Mon père fredonne, les lampes grésillent. Devant le guichet automatique, le couple s'embrasse. La machine, avec un petit clic, émet une mince liasse de billets. Mon père se penche sur son coupon de dépôt. 670 000 en liquide. Le glisse dans une enveloppe, lèche la bande précollée. Le couple, debout devant la porte, s'embrasse toujours, comme s'il n'avait pas trouvé site plus romantique dans toute la ville. D'autres finissent au guichet automatique après minuit, après la fermeture du dernier Dunkin' Donuts. Ils secouent la porte à ouverture magnétique pour attirer l'attention de mon père qui, sauf s'il les connaît, feint d'être endormi ou absorbé dans sa transaction. C'est dur de trouver un hall d'accueil ouvert après minuit, ou se mettre au sec, et pour certains, dur aussi de rafler ne serait-ce qu'une carte magnétique. Mon père reconnaît Bill aux yeux boules, un autre taré inoffensif lui ouvre la porte. Les yeux boules parlent du coin des lèvres et surveillent ce qui arrive par-dessus l'épaule de mon père. Il craint d'être observé, ce qui n'aurait rien d'étonnant dans ce genre de local. Derrière ce film, on filme sa putain de vie. Toute voûtée à côté de la poubelle, Alice jure que les gens viennent la nuit pour lui graver leurs initiales dans la chair. La pomme tendue vers Bill, d'un geste accusateur, elle demande « Qui c'est JL ?» Les égratignures sur sa main ressemblent aux lettres J et L, c'est vrai. Bill jette à mon père un coup d'œil complice. Alice le foudroie du regard. « T'es qui cette nuit ? Bill au pantalon gris ou celui qui est entré en douce pour me marquer la main ?» Ayant fini de déposer son liquide, mon père se pelotonne sur le sol en céramique, tourne la tête vers la plainte, bien calée sous la fenêtre, à l'abri des regards des faux flics avec leurs étoiles de shérif bidon peintes sur leur petite Jeep. S'il arrive à rester en dessous de leur ligne de mire, ça lui vaudra peut-être 10 minutes de sommeil. Les bars de Boston ferment à 1 heure. La seconde vague de fêtards, plus grégaire que ceux du début de soirée, le regard trouble, rentre chez eux. Cherchant à s'introduire dans le local, parfois ils vous agressent ou vous glissent la pièce. S'ils sont un peu allumés, ils entament la conversation, s'assoient par terre à côté de vous, vous offrent à boire, veulent savoir votre nom. « Vous avez l'air d'un type bien ? Comment vous avez atterri là ? Où ça ?» demande mon père.
Le cabinet d'esthétique.
Nous venons d'entendre Music for the Starry Night de George Crumb, troisième volet du cycle Music of the Summer Evening, composé en 1974. Puis je vous ai lu le tout début du livre de Nick Flynn, traduit en français par Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie, un texte sublime qui évoque le quotidien et la vie du père de l'auteur, un père qu'il n'a jamais connu jusqu'à ce qu'il le retrouve un jour, par hasard dans un asile pour SDF à Boston. Et puis la dernière pièce de ce triptyque, c'était The Night, extrait de Toward the Sea, composé en 1980, œuvre pour flûte et marimba du compositeur japonais Toru Takemitsu. Vous êtes toujours dans le cabinet d'esthétique sur Radio Canu, et ce soir nous sondons les mystères de la nuit. Il est minuit 20. Sans transition aucune, la pièce que l'on va entendre maintenant s'inspire de la nuit en tant que complice de l'homme, et peut-être comme force malfaisante. La nuit porte-t-elle vraiment conseil ? En tout cas, pas vraiment à Tristan, cet héros légendaire de la littérature du Moyen-Âge. Nous allons écouter tout de suite Lamento di Tristano pour deux guitares, composé en 1982 par le compositeur allemand Rolf Rihm. Originaire de Francfort, Rolf Rihm a abordé des styles très différents et sa musique est multiple. Ses compositions abordent la plupart du temps l'esthétique du collage et sont extrêmement hétérogènes. Le Lamento di Tristano est de cette facture, abordant des esthétiques très diverses qui vont jusqu'à évoquer la guiterne médiévale avec une musique pourtant plutôt proche de celle de la Renaissance, à vous de juger. En tout cas, Rolf Rihm présente le Lamento di Tristano comme des, je cite, « tableaux de l'histoire tragique de Tristan et Isolde ». Première pièce. Lamento di Tristano. Le pinceau servant à peindre ces tableaux est le Lamento di Tristano, une estampe de l'époque du roman. Selon le caractère des tableaux, on distingue très nettement ou à peine la touche du pinceau. Larges coups de pinceau, timides effleurements, grands coups donnés sur la toile. Il sono di Tristano. Les êtres du jour et de la nuit se séparent, rythme différent. Reflet du jour, toujours mauvais pour Tristan et Isolde. Apaisement. La mélodie du lamento se glisse tel un cauchemar dans l'âme qui appelle à l'aide. Elle prend des formes menaçantes, traînantes, inconcevables. Thank you. Les notés di Tristano. Ce mouvement veut être un éroticon dramatique. Deux individus qui ressentent pareillement, mais sans synchronisation, du point de vue musical. Et lorsqu'ils sont ensemble, c'est avec une discipline extrême, une crispation, avec une menace dans le dos. Tristano vuole obliare il profumo della bella di notte. Pour sauver leur vie, Tristan veut tuer l'amour qui brûle en lui, impitoyable, avec dureté, il s'y essaie, sans cesse. Thank you. La mortée di Tristano. Au moment de la mort, les ingrédients de cet amour font une nouvelle apparition. Force, destruction, tendresse, espoir, mais avant tout, infinitude.
Le cabinet d'esthétique.
Vous êtes toujours dans le cabinet d'esthétique, il est 00h38 et nous venons d'entendre le Lamento di Tristano, pièce de Rolf Rimm pour deux guitares composée en 1982. Cette émission consacrée à la nuit en musique arrive maintenant à son terme. Le cycle des deux émissions, celle d'aujourd'hui et celle d'il y a deux semaines, sont disponibles à l'écoute sur le blog du cabinet d'esthétique. Et je voudrais terminer cette émission par la lecture d'un extrait d'un roman, Le Requiem des Innocents, de l'auteur lyonnais Louis Calafert. Un texte qui est une déclaration d'amour, ni plus ni moins, à la nuit, ce moment où les difficultés de la vie pour le narrateur et l'auteur sont tolérables. Il y eut chaque soir ou presque de longues promenades qui étaient pour moi comme un grand repos. une fuite permise au-delà des limites qui jusqu'alors m'avaient enserré. L'aube et moi, ainsi que deux hommes amis, la douceur de l'amitié nous liant déjà. Nous partions à travers la ville, à travers les nuits scintillantes de la ville, parcourant sans nous presser les rues peu à peu désertées, habitées seulement par les clochards tassés sous les portes cochères des immeubles. Dans les recoins des magasins, tassés, bourrés tels des animaux, les uns contre les autres dans le froid des nuits de l'hiver, nous allions, lui et moi, lourds, lui et moi, de cette grande tristesse de la nuit des villes, de cette magique et haute poésie de la nuit des villes. Les clochards étaient là, toujours les mêmes, nuit après nuit. Là, dans les bras les uns des autres, étouffant à peine, à pleine entrainte, la peine de leurs destins irroutés, nous les regardions, nous nous arrêtions pour les regarder, nuit après nuit, et c'était beau, c'était fantastiquement beau, cet tas humain, ces boules de chair humaine, ces corps pelotonnés sur eux-mêmes tout au long des nuits glaciales de l'hiver. Sait-on la beauté qu'il y a dans ce laisser-aller animal ? Homme déchu, ange terrible, croûteux, sale, malade, ivrogne, fainéant, répugnant, indifférent, étranger, faisant confiance au monde, à la bonté du monde, à celle des passants de la nuit. À moins que la confiance n'eût quitté leur âme et que cet abandon ne fût qu'une lassitude de bête trompée. Je ne sais, on ne peut savoir ces choses, on ne peut apprendre nulle part ces choses-là. Qui pourrait se lever et dire de quoi est fait l'abandon total de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, des enfants couchés sous les porches dans les nuits mordantes de l'hiver? Qui saurait parler de cela sans se tromper jamais? Nous allions. Tôt, j'ai connu le monde de la nuit. J'étais, je suis destiné à la nuit. Je garde l'impression de ne pas exister pleinement pendant le jour. Et la nuit m'est favorable. Le soir venu, pour moi, la vie commence. L'aube était de cette race de nocturne. La nuit tombée, son comportement changeait, sa voix devenait autre. Il est des êtres qui ne savent pas se mettre au diapason de la nuit. La nuit ne se livre pas d'elle-même. Il faut la pénétrer, la décortiquer, la violer. Il faut lui arracher les lambeaux qui la recouvrent. À l'heure où les hommes s'endorment, une seconde catégorie d'hommes se montre à nu. La nuit, depuis longtemps, les a façonnés à sa manière qui est brutale, les a pétris, faits et refaits. Je suis de cela. Je suis de ceux qui ne peuvent dormir tant que vit la nuit. Mes souvenirs et mes désirs les plus profonds reviennent, affluent. Je veille, les yeux ouverts sur la nuit qui s'accroche au ciel, j'éprouve la pénible et agréable sensation, la lâche sensation comme au moment de l'anesthésie de me dédoubler. Je me fixe au cœur de la nuit.